Chapitre 1er. De la société et de la civilisation. Une grande partie de cet ordre qui règne parmi les hommes n'est pas l'effet du gouvernement. Elle a son origine dans les principes de la société et de la constitution naturelle de l'homme. Elle existait avant le gouvernement et continuerait d'exister si la formalité du gouvernement était abolie. La dépendance et les intérêts réciproques et mutuels des hommes et de toutes les parties d'une communauté civilisée créent cette grande chaîne qui les tient ensemble. Le tenancier, le fermier, le manufacturier, le négociant, l'artisan et toutes les professions prospèrent par l'assistance que chacune d'elles reçoit de l'autre ou de toutes. L'intérêt commun règle leurs affaires et forme leurs lois. Et les lois faites par l'utilité commune ont plus d'influence que celles du gouvernement. En un mot, la société fait pour elle-même presque tout ce qui est attribué au gouvernement. Pour comprendre la nature et la quantité de gouvernement nécessaire à l'homme, il faut faire attention à son caractère. Comme la nature l'a créé pour la société, elle l'a fait propre à l'état qu'elle lui destinait. Elle a, dans tous les cas, rendu ses besoins naturels plus grands que ses pouvoirs individuels. Aucun homme ne saurait, sans l'assistance de la société, satisfaire ses propres besoins. Ces besoins, agissant sur tous les individus, les poussent vers la société aussi naturellement que la gravitation marche vers un centre. Mais elle a été plus loin. Elle a forcé l'homme à l'état de société non seulement par une multitude de besoins que des secours réciproques peuvent satisfaire. Elle a, outre cela, planté en lui un système d'affection qui, quoiqu'elles ne soient pas nécessaires à son existence, sont essentielles à son bonheur. Il n'y a aucune période de la vie où cet amour de la société cesse d'agir. Il commence et finit avec notre existence. Si nous examinons attentivement la composition et le caractère de l'homme, la variété de ses besoins et la variété des talents dans les différents hommes pour suppléer aux besoins les uns des autres, si nous considérons son inclination pour la société et conséquemment pour conserver les avantages qui en résultent, nous découvrirons aisément qu'une grande partie de ce que l'on appelle gouvernement n'est qu'une imposition. Le gouvernement n'est nécessaire que pour suppléer au petit nombre de cas qui ne sont pas convenablement de la compétence de la société et de la civilisation. Et il ne manque pas d'exemples pour prouver que tout ce que le gouvernement peut ajouter d'utile à cela a été fait par le consentement général de la société sans le secours du gouvernement. Il n'y eut pas de forme de gouvernement établie pendant plus de 2 ans dans plusieurs des États de l'Amérique après le commencement de la guerre contre l'Angleterre. L'ancienne avait été abolie et le pays était trop occupé de sa défense pour pouvoir donner son attention à l'établissement d'un nouveau gouvernement. Cependant, durant tout ce temps-là, l'ordre et l'harmonie s'y maintinrent avec autant de précision que dans aucun État de l'Europe. Il y a dans l'homme une certaine aptitude, qui est plus grande encore dans la société, parce qu'elle embrasse une variété plus considérable de talents et de ressources, pour s'accommoder à toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Du moment où le gouvernement formel cesse, la société commence à agir. Il se forme une association générale, et l'intérêt commun produit la sûreté commune. Il s'en faut tellement que l'abolition de tout gouvernement formel entraîne la dissolution de la société, comme on l'a prétendu, qu'elle produit un effet contraire et qu'elle en resserre les liens. Toute cette partie de son organisation que la société avait confiée à son gouvernement retombe alors sur elle et est mue par sa médiation. Quand les hommes, par l'influence naturelle et par des avantages réciproques, ont été habitués à l'état de société et de civilisation, il leur reste assez de ces principes pour les conduire pendant qu'ils font les réformes qu'ils jugent nécessaires ou convenables dans leur gouvernement. En un mot, l'homme est tellement fait pour la société qu'il est presque impossible de l'en faire sortir. Un gouvernement formel ne forme qu'une bien petite partie de l'état de civilisation. Et quand on a même établi le meilleur gouvernement que la sagesse humaine puisse suggérer, c'est plutôt une chose idéale que réelle. C'est des principes fondamentaux de la société et de la civilisation, des usages communs universellement consentis et maintenus réciproquement, de la circulation continuelle des intérêts qui, passant à travers 1 million de canaux, donne de la vigueur à toute la masse des êtres civilisés, c'est de ces choses, dis-je, plutôt que de tout ce que le meilleur gouvernement peut faire, que dépendent de la sûreté et la prospérité des individus et de la société entière. Plus les âmes sont civilisées, moins ils ont besoin de gouvernement, parce qu'ils sont plus propres à conduire leurs affaires et à se gouverner eux-mêmes. Mais la pratique des anciens gouvernements est tellement contraire à cette maxime que leurs dépenses augmentent en proportion de ce qu'elles devraient diminuer. L'État civilisé n'a besoin que d'un petit nombre de lois générales et si universellement utiles qu'elles produisent les mêmes effets sans la contrainte du gouvernement. Si on examine les principes qui forment d'abord les sociétés et les motifs qui règlent ensuite la correspondance mutuelle des associés, on verra qu'au moment où on arrive à établir ce que l'on appelle un gouvernement, presque le tout était fait par l'opération naturelle des parties les unes sur les autres. L'homme, par rapport à toutes ces choses, est plus conséquent qu'il ne s'imagine ou que les gouvernements ne voudraient lui faire croire. Toutes les grandes lois de la société sont des lois de la nature, celles du commerce, soit par rapport à la correspondance entre les individus ou entre les nations, sont des lois d'un intérêt mutuel et réciproque. Les hommes les suivent et y obéissent parce que c'est l'intérêt des parties de le faire et non pas parce qu'elles sont formellement émanées de leur gouvernement. Mais combien de fois cette propension naturelle vers la société est-elle troublée ou détruite par les opérations du gouvernement? Quand celui-ci, au lieu d'être fondé sur les principes de la première, prétend exister par lui-même et favorise ou opprime avec partialité, il devient la cause des maux qu'il devrait empêcher. Si nous jetons un coup d'œil rétrograde sur les troubles et les tumultes qui ont eu lieu dans différents temps en Angleterre, nous trouverons qu'ils ne sont pas arrivés faute du gouvernement, mais que le gouvernement les a lui-même produits. Au lieu de consolider la société, il l'a divisée. Il l'a privée de sa liaison naturelle et a engendré des désordres et des mécontentements qui n'auraient pas autrement existé. Dans ces associations que les hommes forment pour le commerce ou pour d'autres affaires, dans lesquelles le gouvernement n'est pour rien, et où ils agissent simplement selon les principes de la société, on voit comment les différentes parties sont naturellement réunies. Cela démontre comparativement que les gouvernements, loin d'être toujours la cause ou le moyen de l'ordre, en sont souvent la destruction. Les troubles de 1780 n'avaient d'autre source que les restes de ces préjugés que le gouvernement avait lui-même encouragés. Mais quant à l'Angleterre, il y a outre cela d'autres causes. L'excès et l'inégalité de l'impôt, quelque déguisée que soit la manière de le percevoir, produisent toujours des effets sensibles. Comme ils appauvrissent et mécontentent une partie considérable de la société, ces gens-là sont toujours sur le point d'une insurrection. Et, privés comme ils le sont, malheureusement, des moyens d'instruction, ils s'échauffent et se portent aisément à des excès. Quelle que soit la cause apparente de toutes les commotions, la véritable est toujours un manque de bonheur. Cela prouve qu'il y a quelque chose de mauvais dans le système du gouvernement qui trouble le bonheur par lequel la société doit être conservée. Mais comme les faits valent mieux que les arguments, l'exemple de l'Amérique confirme ces observations. S'il existe sur la Terre un pays où, selon les calculs ordinaires, on doive peu s'attendre à l'harmonie, c'est sûrement l'Amérique, composée d'hommes de différentes nations, accoutumés à différentes formes de gouvernement, parlant des langues différentes, et plus différents encore dans les formes du culte, il paraîtrait que l'union d'un pareil peuple serait impraticable. Mais par la simple opération de fonder le gouvernement sur les principes de la société et les droits de l'homme, toutes les difficultés s'évanouissent et toutes les parties sont parfaitement d'accord. Note. Cette partie de l'Amérique, généralement appelée Nouvelle-Angleterre, comprenant New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island et Connecticut, est principalement peuplée de descendants d'Anglais. Dans l'État de la Nouvelle-York, il y a environ la moitié de Hollandais. Le reste est composé d'Anglais, d'Écossais et d'Irlandais. Dans la Nouvelle-Jersey, c'est un mélange d'Anglais et de Hollandais avec quelques Écossais et Irlandais. Dans la Pennsylvanie, il y a environ un tiers d'Anglais, un autre tiers d'Allemands, et le reste est composé d'Écossais, d'Irlandais et de Suédois. Les États du Midi ont une plus grande proportion d'Anglais que ceux du milieu. Mais il y a partout un mélange. Outre ceux dont nous avons déjà parlé, il y a un nombre considérable de Français et quelques personnes de toutes les nations européennes situées sur les côtes. La secte la plus nombreuse, en fait de religion, est celle des presbytériens. Mais il n'y a point de secte privilégiée, et tous les hommes sont également citoyens. Fin de la note. Là, le pauvre n'est pas opprimé, ni le riche privilégié. L'industrie n'est pas mortifiée par l'extravagance pompeuse d'une cour qui se divertit à ses dépens. Les Américains ont très peu d'impôts parce que leur gouvernement est juste. Et comme il n'y a rien pour les rendre malheureux, il n'y a rien qui puisse occasionner des tumultes et des insurrections. Un métaphysicien comme M. Burke se serait mis l'esprit à la torture pour découvrir comment on pourrait gouverner un pareil peuple. Il aurait supposé qu'il fallait diriger les uns par la fraude, les autres par la force, et tous, enfin, par quelque invention. Qu'il fallait louer des gens d'esprit pour en imposer aux ignorants, et qu'il était nécessaire d'étaler de l'éclat pour captiver le vulgaire, perdu dans l'immensité de ses recherches. Il aurait résolu et résolu encore, et finalement, il ne se serait pas aperçu de la route facile et simple qu'il avait directement sous les yeux. L'un des grands avantages de la Révolution de l'Amérique fut de conduire à la découverte des principes du gouvernement et d'en dévoiler les fraudes. Jusqu'alors, toutes les révolutions s'étaient opérées dans le cercle étroit des cours et jamais sur la vaste scène d'une nation. Les partis intéressés avaient toujours été de la classe des courtisans. Et quelle que fût leur ardeur pour la réforme, ils avaient toujours soigneusement préservé la fraude de leur profession. Dans tous les cas, ils avaient toujours eu soin de représenter le gouvernement comme une chose mystérieuse dont ils avaient seul le secret. Et ils avaient toujours caché à la nation la seule chose qui lui était avantageux de connaître, savoir que le gouvernement n'est qu'une association nationale agissant selon les principes de la société. Après m'être efforcé de prouver que l'État social et civilisé est seul capable de faire presque tout ce qui est nécessaire pour sa protection et son gouvernement, il sera à propos, d'un autre côté, de passer en revue les anciens gouvernements actuels et d'examiner si leurs principes et leurs pratiques correspondent à cela. Chapitre 2. De l'origine des anciens gouvernements actuels. Il est impossible que les gouvernements qui ont jusqu'ici existé dans le monde, ayant commencé par aucun autre moyen que par la violation entière de tous les principes sacrés et moraux. L'obscurité dont leur origine est enveloppée marque l'iniquité et la disgrâce par lesquelles ils ont commencé. L'origine des gouvernements actuels de l'Amérique et de France ne s'oubliera jamais, parce qu'il est honorable de la retracer. Mais quant aux autres, la flatterie même les a consignés dans le tombeau du temps sans inscription. Il n'était pas bien difficile, dans les premiers siècles du monde, tandis que les hommes étaient principalement occupés du soin de faire paître les troupeaux, à une bande de brigands de parcourir un pays et de le mettre à contribution. Leur pouvoir ainsi établi, le chef de la bande tâcha de substituer le nom de monarque à celui de voleur. Et voilà l'origine de la monarchie et des rois. L'origine du gouvernement d'Angleterre, quant à ce qui regarde ce que l'on appelle la Ligue de sa monarchie, étant un des plus récents, est peut-être la mieux connue. Il faut que la haine que l'invasion et la tyrannie des Normands avaient excité, ait été bien invétérée, puisqu'elle a survécu au stratagème inventé pour l'effacer. Quoiqu'aucun courtisan ne parle de la cloche du couvre-feu, il n'y a pas un village d'Angleterre qui l'ait oublié. Ces bandes de brigands ayant partagé le monde et l'ayant divisé en états, commencèrent, comme il arrive ordinairement, à se quereller entre eux. D'autres crurent qu'il était aussi légitime de prendre ce que l'on avait obtenu par la violence, et un second pillage succéda au premier. Ils envahirent alternativement les dominations que chacun d'eux s'était appropriées, et la férocité avec laquelle ils se traitèrent les uns les autres démontre assez le caractère originaire de la monarchie. C'était un brigand qui en tourmentait un autre. Le conquérant regardait le vaincu, non pas comme son prisonnier, mais comme sa propriété. Il le conduisait en triomphe chargé de chaînes et le condamnait, selon son plaisir, à l'esclavage ou à la mort. À mesure que le temps étendit son voile sur leur origine, leurs successeurs prirent un nouvel extérieur pour trancher le fil de leur disgrâce. Mais leurs principes et leurs objets furent toujours les mêmes. Ce qui d'abord était un pillage prit le nom plutôt de revenus ou d'impôts, et ils affectèrent d'hériter un pouvoir qu'ils avaient dans l'origine usurpé. Que pouvait-on attendre du gouvernement qui avait ainsi commencé, sinon un système continuel de guerre et d'extorsion? Ils s'en sont fait un commerce. Ce vice n'est pas plus particulier à l'un qu'à l'autre, et c'est le principe commun de tous. Il n'y a pas, dans de pareils gouvernements, une seule tige sur laquelle on puisse greffer une réforme. Le remède le plus court et le plus efficace, c'est de recommencer de nouveau. Quelle scène d'horreur, quel vaste catalogue d'iniquités se présente lorsqu'on jette les yeux sur l'histoire de ces gouvernements. Si l'on voulait peindre la nature humaine avec les caractères de la bassesse et de l'hypocrisie, ce serait le portrait des rois, des cours et des cabinets qu'il faudrait faire. L'homme naturel, malgré tous ses défauts, ne pourrait pas servir au tableau. Est-il possible de supposer que si les gouvernements avaient été fondés sur de justes principes et n'avaient pas d'intérêt à en suivre d'injustes, le monde aurait été dans la misérable et discordante situation dans laquelle nous l'avons vu? Quel avantage avait le fermier qui suivait sa charrue de quitter ses paisibles travaux pour faire la guerre aux fermiers d'un autre pays? Quel était celui du manufacturier? À quoi leur sert la domination, ou de quelle utilité est-elle à aucune classe d'hommes dans une nation? Ajoute-t-elle un seul arpent aux terres de qui que ce soit, ou en augmente-t-elle la valeur? Les conquêtes et les défaites ne lui coûtent-elles pas également cher? Et les conséquences qui en résultent ne sont-elles pas nécessairement une augmentation d'impôts? Quoique ces arguments puissent être bons pour une nation, ils ne le sont pas pour un gouvernement. La guerre est la banque de Pharaon des gouvernements, et les nations sont les dupes. S'il y a quelque chose de surprenant dans cette misérable scène du gouvernement, ce sont les progrès que les arts paisibles de l'agriculture, des manufactures et du commerce ont fait sous cette longue suite de découragement et d'oppression. Ils servent à prouver que l'instinct n'agit pas plus fortement chez les animaux que les principes de la société et de la civilisation n'opèrent chez l'homme. Malgré tous les découragements, il poursuit son objet et ne cède qu'aux impossibilités. Chapitre 3. Des anciens et des nouveaux systèmes de gouvernement. Rien ne saurait paraître plus contradictoire que les principes selon lesquels les anciens gouvernements ont commencé et l'état auquel la société, la civilisation et le commerce sont capables de porter les âmes. Le gouvernement, selon l'ancien système, est une assomption de pouvoir qui cherche à s'augmenter. Selon le nouveau, c'est une délégation de pouvoir pour l'avantage commun de la société. Le premier se soutient en entretenant un système de guerre. Le dernier maintient un système de paix comme le seul moyen d'enrichir une nation. L'un encourage les préjugés nationaux, l'autre désire la société universelle comme un moyen de commerce universel. L'un estime sa prospérité sur la quantité de revenus qu'il extorque, l'autre prouve son excellence par le peu de taxes qu'il exige. M. Burke a parlé d'anciens et de nouveaux Whigs. S'il peut s'amuser de noms et de distinctions puériles, je n'interromprai pas ses amusements. Ce n'est pas à lui, mais à l'abbé Sieyès que j'adresse ce chapitre. Je me suis engagé avec ce dernier de discuter le sujet du gouvernement monarchique, et comme il se présente naturellement en comparant les anciens systèmes avec les nouveaux, je saisis cette occasion de lui offrir mes observations. Je dirai de temps en temps un mot à M. Burke en passant. Quoi que l'on puisse prouver que le système de gouvernement que l'on appelle aujourd'hui « nouveau » soit en principe le plus ancien qui ait jamais existé, puisqu'il est fondé sur les droits originaires et imprescriptibles de l'homme, cependant, comme la tyrannie et l'épée ont suspendu pendant tant de siècles l'exercice de ces droits, il vaudra mieux, pour ne pas se tromper, l'appeler le nouveau que de réclamer le droit de l'appeler l'ancien. La première distinction générale entre ces deux systèmes, c'est que celui que nous appelons l'ancien est héréditaire, en tout ou en partie, et que le nouveau est entièrement représentatif. Il rejette tout gouvernement héréditaire. D'abord comme une imposition, secondement comme insuffisante aux fins pour lesquelles le gouvernement est nécessaire. Revenons au premier chef. On ne saurait prouver sur quel droit le gouvernement héréditaire a commencé. Et il n'y a pas même au pouvoir des âmes un droit de l'établir. L'homme n'a aucune autorité sur la postérité en fait de droit personnel. Conséquemment, aucun homme, ni aucun corps d'homme, n'eut jamais ou ne saurait avoir un droit d'établir un gouvernement héréditaire. Si nous devions même renaître nous-mêmes, au lieu d'être succédés par la postérité, nous n'avons pas le droit de nous priver maintenant d'un droit qui nous appartiendrait alors. Sur quoi fonder, donc, prétendons-nous en priver les autres ? Tout gouvernement héréditaire est par sa nature une tyrannie. Une couronne ou un trône héréditaire, quel que soit le nom imaginaire que l'on puisse donner à de pareilles choses, n'a point d'autre signification sinon que le genre humain est une propriété qui peut s'hériter. Hériter un gouvernement, c'est hériter les peuples comme s'ils étaient des troupeaux de bestiaux. Quant au second chef, savoir qu'un gouvernement héréditaire est insuffisant aux fins pour lesquelles le gouvernement est institué, nous n'avons pour le prouver qu'à examiner ce qu'est essentiellement le gouvernement et à le comparer avec les circonstances auxquelles une succession héréditaire est sujette. Le gouvernement doit toujours être dans un état de maturité. Il doit être construit de manière à être supérieur à tous les accidents auxquels le simple individu est sujet. Donc la succession héréditaire, étant sujette à tous ces accidents, est la plus irrégulière et la plus imparfaite de tous les systèmes de gouvernement. Nous avons entendu appeler les droits de l'homme un système de nivellement. Mais le seul système auquel le mot « nivellement » soit applicable est le système de la monarchie héréditaire. Il admet indistinctement toutes sortes de caractères à la même autorité. Le vice et la vertu, l'ignorance et la sagesse, en un mot toutes les qualités, bonnes ou mauvaises, sont mises au même niveau. Les rois se succèdent, non pas comme des êtres raisonnables, mais comme des animaux. Leur caractère moral et leur faculté spirituelle sont des choses indifférentes. Devons-nous donc être surpris de l'état abject de l'esprit humain dans les monarchies, lorsque le gouvernement est fondé sur un système de nivellement aussi abject? Il n'a pas de caractère fixe. Aujourd'hui c'est une chose, demain une autre. Il change avec le caractère de chaque successeur et est sujet à toutes les variations de chacun d'eux. C'est un gouvernement qui agit par la médiation des accidents et des passions. Il paraît sous les différents caractères de l'enfance, de la décrépitude et du radotage. Un être à nourrice, à la lisière ou sur des béquilles. Il est l'inverse de l'ordre parfait de la nature. Il fait souvent dominer les enfants sur des hommes faits et les préventions de la jeunesse sur la sagesse et l'expérience. En un mot, on ne saurait concevoir une forme de gouvernement plus ridicule que celle que présente la succession héréditaire dans tous les cas. S'il pouvait y avoir un décret dans la nature ou un édit enregistré au ciel, et que l'homme pût le connaître, que la vertu et la sagesse appartinssent inviolablement à la succession héréditaire, toutes les objections seraient résolues. Mais quand on voit que la nature agit comme si elle désavouait et ridiculisait le système héréditaire, que les facultés mentales des successeurs dans tous les pays ne sont pas au pair de l'entendement humain, que l'un est un tyran, l'autre un imbécile, un troisième un fou, et que quelques-uns réunissent ces trois qualités, il est impossible d'avoir de la confiance en un pareil système quand il est au pouvoir de la raison d'agir. Ce n'est pas à l'abbé Sieyès que j'ai dessein d'appliquer ce raisonnement. Il m'en a épargné la peine en donnant son opinion là-dessus. « Si l'on me demande, dit-il, quelle est mon opinion par rapport au droit héréditaire, je répondrai sans hésiter qu'en bonne théorie, une transmission héréditaire de pouvoir ou de place ne saurait jamais s'accorder avec les lois d'une véritable représentation. L'hérédité est, en ce sens, autant un attentat contre le principe qu'un outrage à la société. Mais examinons, continue-t-il, l'histoire de toutes les monarchies et de toutes les principautés électives. En existe-t-il une dans laquelle le mode d'élection ne soit pas pire que la succession héréditaire ? Discuter quelle est la pire, c'est admettre qu'elles sont toutes deux mauvaises. Et en cela, nous sommes d'accord. La préférence que l'abbé a donnée fait la condamnation de la chose qu'il préfère. Une pareille méthode de raisonner sur un sujet est inadmissible, parce que c'est en dernière analyse accuser la Providence de n'avoir laissé à l'homme aucun autre choix par rapport au gouvernement que celui de deux mots dont le moindre est un attentat contre le principe et un outrage à la société. Sans entrer, pour le présent, dans aucun détail des maux et des malheurs que la monarchie a occasionnés dans le monde, rien ne démontre plus clairement son inutilité dans un état de gouvernement civil que de la rendre héréditaire. Rendrions-nous héréditaire aucun office qui exige de la sagesse et de l'habileté? Or, une place où il ne faut ni sagesse ni talent, quelle qu'elle soit, est superflue et peu importante. La succession héréditaire est une plaisanterie sur la monarchie. Elle la place sous le point de vue le plus ridicule, en la présentant comme un poste qu'un enfant ou qu'un imbécile peut remplir. Il faut quelque talent pour être ouvrier, mais pour être roi, il ne faut qu'avoir la figure humaine, être une espèce d'automate vivant. Cette sorte de superstition peut encore durer quelques années, mais elle ne saurait longtemps résister à la raison vigilante et à l'intérêt des âmes. Quant à M. Burke, c'est un défenseur de la monarchie, non seulement comme pensionnaire, s'il en est un, et je le crois, mais même comme politique. Il a adopté une fort mauvaise opinion du genre humain, qui, à son tour, a la même opinion de lui. Il considère les hommes comme des bestiaux qu'il faut gouverner par la fraude, par des représentations et par du brillant. Et selon lui, une idole serait une aussi bonne figure pour une monarchie qu'un homme. Je lui rendrai cependant la justice de dire qu'au sujet de l'Amérique, il a toujours fait beaucoup de compliments. Il a toujours soutenu, au moins en ma présence, que le peuple de l'Amérique était plus éclairé que celui d'Angleterre ou d'aucun autre pays de l'Europe, et que conséquemment, il n'était pas nécessaire de lui en imposer par de l'éclat pour le gouverner.